Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Discutons de l'innovation. Nous sommes 6 amis étudiants à l'UTC et nous vous présenterons 4 émissions autour de l'innovation. Nous avons la chance d'enregistrer ces émissions dans un studio de radio. Il s'agit de la radio Graphite que vous écoutez actuellement sur le 94.9 FM. Ces émissions sont réalisées dans le cadre d'un projet de science et débat public. Pour des raisons sanitaires, nous ne serons que 3 étudiants à parler aujourd'hui parce que on ne peut pas être plus dans le studio. Et on effectuera un roulement donc des 6 personnes afin que tout le monde participe. Donc aujourd'hui, il y a
Manon, Imen
et moi-même, François. Alors Manon, de quoi allons-nous discuter durant cette émission ?
D'abord, on va faire un petit historique des transports en parlant des premiers transports, les améliorations et aussi les révolutions qu'il y a eu. Et on va se pencher après sur les problématiques environnementales dans les transports, en fait, avec l'intervention de Monsieur Emery Justin, qui est un chercheur qui nous parlera de l'impact sanitaire des pollutions environnementales et atmosphériques surtout. Et ensuite, on pourra même parler de ce qu'a apporté la technologie dans les transports à travers différents exemples. Et on abordera justement les dangers de certaines de ces innovations dans les transports, et notamment la sécurité et la vie privée. Et on parlera aussi des dérives avec l'automatisation, notamment, d'abord, pour introduire, j'ai une petite question à vous poser. Selon vous, quel a été le premier transport amélioré par la technologie ?
Le premier transport, franchement, je ne sais pas. Je dirais que ça a peut-être un rapport avec les chevaux, parce qu'à l'époque...
Ouais, j'aurais dit pareil, tu sais, avec les animaux ou quelque chose du genre.
Après, qu'est-ce que ça a été ? J'en sais rien.
Vous n'êtes pas très loin, mais déjà, on pourrait dire que c'était le portage humain, puisque on se déplaçait par nous-mêmes, on portait des choses pour se déplacer. Et justement, après, il y a eu les animaux domestiqués, comme le bœuf ou l'âne qui portaient nos charges, on va dire. Mais du coup, ce qui a amélioré ça, on peut penser que c'est la roue. En fait, en Mésopotamie, ils ont juste pris des rondins de bois, ils les ont troués, et ils ont trouvé la roue. Et on peut dire quand même que ça a révolutionné la technologie des transports, quoi, puisque ça a aidé dans beaucoup de choses, je suppose. Donc, je pense que c'est la roue. Vous avez raison. Enfin, vous n'avez pas raison, mais vous y étiez presque.
On n'était pas loin, quoi.
Ouais, mais après, je viens de regarder sur Internet et c'est un truc de fou parce qu'en fait, est-ce que vous savez comment on a découvert justement quel était ce premier véhicule, entre guillemets ?
Parce qu'on peut se dire que c'était il y a quand même super longtemps,
tu vois.
C'est juste que la roue, c'était au Moyen-Orient, donc peut-être un truc par là-bas, dans le même genre.
Mais c'est fou parce qu'en fait, on l'a découvert dans un temple. À Erech, en basse Mésopotamie. Donc c'est un truc de fou. On l'a découvert dans un temple, en fait, sur des dessins, des pictogrammes. Et on a vu en fait qu'il y avait un chariot à deux roues. Parce que sinon, c'est vrai que si on n'a pas de traces de ça, on peut pas savoir que ça a été créé à ce moment-là. Mais c'est quand même fou de se dire que déjà 3000 ans avant notre ère, ils étaient capables de construire des choses pareilles. Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant. Et maintenant, je vais d'ailleurs vous parler des autres innovations qui sont arrivées de façon chronologique, du coup. L'invention suivante qui a vraiment bouleversé, c'était l'invention de la charrue, 300 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi ça a tout bouleversé ? Parce que, on ne se rend pas compte, mais il fallait commencer à nourrir la population. Et l'agriculture, c'était à l'époque le seul moyen de s'alimenter quasiment. Et la charrue, ça a permis vraiment de multiplier considérablement les récoltes, et ça a permis de nourrir de plus importantes populations, et donc ça a été majeur. Mais quand on regarde en fait de façon chronologique, ce qui est assez drôle, c'est qu'ensuite, pendant quasiment 2000 ans, il y a eu des inventions, bien sûr, mais pas non plus de choses majeures, parce que les gens continuaient au final de se déplacer à cheval, et donc ça changeait pas grand-chose, jusqu'en 1804, et l'invention du train. Donc c'est vraiment en fait là que tout a commencé à changer, parce que le train et le chemin de fer... c'est un peu à la base de tout, on utilise encore aujourd'hui des trains. Mais ensuite, juste après, 15 ans après, hop, directement la bicyclette, donc un nouveau moyen de locomotion, tout simplement dans les villes, ça arrivait vite, notamment à Paris, où ça permettait de se déplacer dans la ville. Mais parce que, bien sûr, quand on prend le train, c'est pas pour se déplacer pour faire 5 km, quoi. Mais du coup, la bicyclette, et encore 15 ans après, le tramway. Du coup, genre vraiment... super vite, il y a eu des innovations qui se sont enchaînées. Et c'est assez fou, parce qu'il y a eu le tramway, après il y a eu l'automobile 40 ans plus tard. Et donc on voit qu'en fait, en très peu de temps, en même pas 100 ans, ça a évolué considérablement. Enfin, c'est un truc de fou. Au niveau technologique, les prouesses ont été énormes. Enfin, par exemple, on peut voir qu'au niveau de, bah, la quantité, ça a aussi augmenté parce qu'en 1883, on invente l'automobile. Aujourd'hui, bah, des voitures, il y en a partout, dans quasiment tous les pays du monde. Donc, c'est un truc de fou. Et notamment en France, il y a une stat, 98% des Français ont accès à un moyen de locomotion dans un rayon de 5 km. Donc la France, bon, bien sûr, c'est un pays développé. Je me doute que c'est pas pareil dans tous les pays, mais c'est quand même fou de se dire que quasiment tous les Français peuvent accéder à, bah, à un moyen de locomotion assez facilement. Mais par exemple, encore plus fou que ça, vous savez de combien de temps le temps de trajet d'un déplacement Paris-Bruxelles a été réduit depuis 1750 ?
Bah, moi, je dirais Paris, c'est quand même au nord de la France. Ouais. Bruxelles, c'est pas très très loin. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la voiture, donc j'aurais peut-être tendance à dire plusieurs jours.
Bah, en Calais, ouais, en 1750, non, même pas, en fait, je sais ouais, pas. C'était non, en 1750, c'était long. Mais vous pensez que genre ça a été réduit de combien de temps? Genre quelques jours, tu dirais, entre enfin, maintenant et...
Je pense que ça mettait plusieurs jours et maintenant bah ça se fait super vite, ça se fait
ouais.
en deux.
Ouais, clairement
en plutôt plusieurs jours quoi.
Ouais, 1750, il y avait pas l'avion, il y avait rien quoi. Donc en vrai,
il y avait vraiment rien en fait.
Ouais, bah, c'est non. On y allait en cheval en 1750, non?
Ah bah justement, je voulais voir, ouais. Genre aujourd'hui, il faut savoir que pour faire Paris-Bruxelles, c'est 3 heures de route. Ou alors, bon, bien sûr, s'il n'y a pas de bouchon, parce que si on est bloqué...
Ouais. En voiture, du coup.
Ouais, en voiture. Okay. Si on est bloqué dans les embouteillages, attention, c'est plus long, mais bon. Alors qu'en train, c'est moins d'une heure et demie. Donc, on sera en TGV. Donc, c'est quand même très peu. Et même en avion, justement, t'en parlais, c'est 50 minutes. Même pas une heure pour faire Paris-Bruxelles. Alors que quand on regarde, en 1750, il fallait 2 jours de diligence pour relier le Louvre à la place royale de Bruxelles. Ensuite, en 1840, il fallait encore 24 heures. Donc, on a quand même réduit de moitié. Et ensuite, à 12 heures sur les lignes de chemin de fer en 1850. Donc, vraiment, l'évolution, elle a été très rapide. Et maintenant, on se rend compte que c'est rien. On a diminué le temps de trajet de façon considérable en très peu de temps.
Mais sachant que aussi pour le galop, 24 heures, on ne pouvait pas le faire forcément de suite. Donc, du coup, il y avait forcément une pause. Donc c'est encore pire que 24 heures, quoi,
ouais,
au final.
Ouais, c'est sûr, ouais, bah ouais, c'est vrai que...
Quand oui, le cheval, pense, je pense pas qu'il tient aussi longtemps.
Ouais, donc, mais c'est quand même considérable. Et j'ai fait mes recherches, c'est pareil pour la ligne Lille-Paris, et pour plein d'autres lignes, bah de toute façon, on se doute bien, hein, c'est à partir du moment où il y a eu d'autres moyens de locomotion, c'était plus rapide. Mais ce que je trouve assez marrant aussi au niveau des technologies et dans les transports, c'est que par exemple, j'ai vu un truc sur Space Train, est-ce que vous savez ce que c'est un peu?
Jamais entendu perso.
Non plus.
Bah en fait c'est des trains sur coussin d'air.
Donc, ah oui, si, alors si je vois. Ok, voilà. Pardon.
En fait c'est une technologie qui a été inventée dans les années 60. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, la SNCF et les trains à coussin d'air étaient en fait en concurrence si on veut. Mais l'État français a choisi de s'orienter dans la SNCF et donc les lignes de chemin de fer pour faire des TGV. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les space trains, du coup, les trains sur coussin d'air, bah, ça revient comme technologie. Et donc, c'est là qu'on se dit, bah, en fait, la technologie, l'avancée technologique, elle dépend vachement des subventions et des choix de l'État. Parce qu'à l'époque, l'État a choisi de s'orienter plutôt sur les trains à grande vitesse, alors que maintenant, on se dit, bah, en fait, les trains sur coussin d'air, c'est pas bête comme idée. Et du coup, on se rend compte que même si c'est une technologie qui existait depuis longtemps, bah, les différentes subventions, les choix de l'État... On fait qu'on avait complètement abandonné cette piste qui aurait pu être explorée déjà à l'époque. Et justement, on peut se dire, mais pourquoi aujourd'hui on nous parle de trains à coussin d'air? Pourquoi changer les trains à grande vitesse? Bah justement, c'est pour les problématiques environnementales aujourd'hui. Parce que, bien sûr, on est dans une, vous le savez, hein, dans une crise écologique sans précédent. Et les transports, on va pas se mentir, ça correspond à une énorme part de ça. Enfin, est-ce que vous savez... Au niveau des émissions de CO2, donc pas de gaz à effet de serre, juste de CO2, combien les transports représentent?
Si je me rappelle bien de mes cours de SU, d'urbanisme, c'était pas un quart, un truc comme ça? Non, 25%.
T'es un peu loin là.
Ah, d'accord.
Plus
tous les transports, pas juste plus... les automobiles. Je crois 25% c'est que... Ouais, c'est ça. Monsieur... Oh, en fait, j'en sais rien, mais...
Mais attends, quand elle te dit un quart et que tu dis c'est pas prêt, c'est plus que ça ou c'est
plus
moins
que ça, ouais.
C'est plus que ça.
Ouais, plus que
40
ça. Parce que au niveau du CO2, alors vous avez pas, c'est 75%.
Ok.
En fait, c'est moins au niveau des gaz à effet de serre parce que, bah, par exemple, vous savez, il y a le méthane, ce genre de choses. Ouais. Qui, voilà, c'est pas compté dans le CO2. Mais du coup, avec 13,41 gigatonnes de CO2 émis en 2016 dans le monde. Bah, c'est le transport, en fait, c'est le deuxième contributeur de gaz à effet de serre, enfin de CO2, derrière la production d'énergie et d'électricité. Donc c'est quand même énorme. Genre c'est juste les transports, c'est un truc qui pollue énormément. Et en plus, c'est responsable de plein d'autres problèmes parce que y a des déforestations qui sont mises en place pour construire des nouvelles lignes de chemin de fer. Avec les avions, il y a eu très peu, il y a eu de plus en plus d'avions et pas énormément d'avancées technologiques pour réduire l'effet de l'avion. Et donc, en fait, ça montre que même chaque année, au niveau des voitures, parce qu'on se dit que les gens essaient de moins prendre les voitures, il y en a de plus en plus chaque année et de plus en plus de transports routiers dans le monde chaque année. Donc, on est vraiment sur une courbe qui est énorme. Et justement, pour nous parler de ça, parce que je pense qu'on n'est pas vraiment calé, pas vraiment qualifié pour parler de ce genre de choses, on a reçu, pour nous parler de l'impact de la pollution sur la qualité de l'air, nous avons eu l'honneur de pouvoir joindre M. Justin Emery, qui est donc géographe et chercheur au sein de l'Université de technologie de Compiègne, et qui a bien voulu répondre à nos questions et parler justement de l'impact de la pollution sur la qualité de l'air. Donc on vous laisse avec son témoignage.
Il faut distinguer deux choses. Quand on parle de l'impact de la pollution atmosphérique automobile et la simulation du trafic routier. Pourquoi on appelle la simulation du trafic routier ? Parce que finalement, on n'a pas de données, mis à part les stations de qualité de l'air qui sont en proximité du trafic routier, qui permettent de représenter l'impact de la pollution atmosphérique au bord des routes. On en a quelques-unes. Il y a dans certaines villes 2-3 stations. À Compiègne, par exemple, il n'en existe pas. Le modèle, il permet de simuler un flux de trafic routier qui passe sur des intersections. À partir de ce flux, on a une mesure qu'on peut considérer comme étant une activité. Et l'activité, elle va émettre des polluants atmosphériques. Donc, pour cela, pour passer en fait du trafic routier à l'émission, on va utiliser des facteurs d'émission. Et on connaît, en fait, à partir du nombre de véhicules qui circulent sur une voie et de leur vitesse de déplacement et des caractéristiques du parc automobile, leur donner des émissions unitaires. Et ça permet d'estimer l'impact de la pollution atmosphérique automobile. Ça permet de couvrir l'ensemble de la ville. Les pollutions atmosphériques automobiles, il faut les distinguer sur deux aspects. Vous parlez bien ici d'impact sanitaire. L'impact sanitaire, on va parler seulement de polluants qu'on dit les oxydes d'azote, les particules, les PM10, les PM1, les PM0.5, qui vont avoir un impact sanitaire important. Pourquoi on s'intéresse à celles-ci, en particulier les oxydes d'azote et les particules? Parce que le trafic routier est le polluant traceur de ces polluants. Les observations qui ont été faites en ville, en particulier, elles montrent qu'on a en fait une pollution qu'on dit de fond, qui est sur l'ensemble d'une agglomération. Cette pollution de fond, on remarque que quand on est au bord d'une route, se surimpose une pollution en plus associée au trafic routier. Donc, ce qu'il faut distinguer, c'est bien en fait l'impact de cette pollution. Ce qu'on remarque, c'est que la pollution, elle peut être 2 à 3 fois supérieure à ce qu'on retrouve en fond urbain au bord des routes. Mais là où toute la difficulté est plus importante, c'est que les véhicules, c'est un système dynamique. Ça bouge. Il y a des moments de congestion, il y a des moments où la circulation est fluide. En fait, entre ces périodes, l'impact de la pollution atmosphérique automobile, il est très différent. Grosso modo, on a un impact de la pollution atmosphérique automobile qui va être le matin, le midi et le soir, qui va être plus important, en particulier l'hiver, que l'été. Et ça tient compte aussi de la nature des polluants émis. Les particules, ce qu'on connaît, les épisodes de pollution acido-particulière qu'on peut connaître en plein hiver, ils sont associés à des conditions météorologiques, qui vont être un anticyclone, et à beaucoup de voitures en ville, qui est assez classique. En fait, en hiver, c'est les pollutions acido-particulières. Le trafic routier et le résidentiel sont les principaux contributeurs. C'est pour ça qu'on met en place des politiques de circulation alternée en ville, de gratuité du stationnement ou de gratuité des transports en commun. En été, c'est une pollution à l'ozone qui n'est pas directement induite par le trafic routier. Les NOx participent, les oxydes d'azote participent à la production d'ozone, mais ils ne sont pas premiers contributeurs. Et cet impact-là, il n'est pas à l'échelle locale, il est à l'échelle régionale. Ce qui explique qu'en été, on doit réduire sa vitesse sur les autoroutes. Voilà, la pollution à l'ozone, elle se distingue. Donc, 2 épisodes de pollution. Mais que ce soit la pollution acido-particulière ou la pollution à l'ozone, en fait, elles ont un impact sur la santé humaine. Et on la distingue bien de ce que je disais au début, de tout ce qui va être la pollution CO2, le CO2 n'a pas d'impact sanitaire, il a un impact global sur nos températures. Donc, quand on parle d'impact sanitaire du trafic routier, on parle bien de polluants toxiques pour la santé humaine, oxyde d'azote, en particulier NO2-NO. D'ailleurs, c'est ce ratio-là, c'est le NO qui permet de savoir l'impact du trafic routier dessus, et les particules. Sur ces deux composés, en fait, on a deux types de véhicules qui les émettent. On sait que le diesel est un plus gros émetteur de particules, moins de NOx, et inversement, l'essence émet moins de particules, mais un peu plus de NOx. Si on parle au CO2, le diesel émet moins de CO2, ce qui exprime sa prime carbone, et l'essence émet plus de CO2. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'impact du diesel dans nos villes est plus important, ce qui explique la transition qu'on connaît actuelle sur le parc automobile, où aujourd'hui, les industriels ont plutôt tendance à produire plutôt des essences que des diesels. C'est une politique sur le carburant, mais c'est aussi une politique de, on va dire, d'hygiénisme urbain. On se rend compte que le diesel en ville pollue beaucoup plus en particules et contribue plus fortement aux épisodes de pollution acido-particulière qu'on peut avoir sur ces aspects. Donc la simulation, elle va permettre de faire ça. La simulation du trafic routier, on peut imaginer modifier à l'intérieur même du simulateur de trafic routier le parc automobile, les proportions essence-diesel, les vitesses, parce que les vitesses aussi ont un lien. Une courbe de vitesse, c'est une courbe en U, comme ça, où l'optimum est à 70 km/h. En fonction de cette vitesse, un véhicule émet plus ou moins. Les véhicules à froid, les véhicules à chaud, tout ça, on a besoin de la simulation pour savoir finalement où sont les pollutions les plus importantes, quels sont les impacts de ces parcs automobiles. Et en les modifiant, on peut scénariser des évolutions de parcs automobiles à des horizons 10, 20, 30 ans pour voir l'impact de la pollution atmosphérique qu'il pourrait y avoir si on modifiait notre parc automobile, nos habitudes. Par exemple, l'intégration de véhicules électriques. Dans ces modèles, le véhicule électrique, est-ce qu'il va émettre des polluants toxiques? Très peu. Il va émettre peut-être un petit peu de particules, parce que quand un véhicule freine, il émet des particules, mais c'est quasiment l'un des seuls polluants qu'il va émettre. Donc, si on prend ce focus de l'impact du véhicule électrique sur la pollution atmosphérique automobile, en fait, il est tout bénéfique. On ne regarde pas ici l'ensemble des autres pollutions associées au véhicule électrique. Si on se focus seulement sur l'impact sanitaire, le véhicule électrique, il répond.
Du coup, je pense que vous avez un petit peu donné votre avis par rapport aux voitures électriques, c'est ça?
En même temps, oui. Oui, alors il y a un avis, je ne sais pas si c'est un avis. Je vais plutôt prendre une position de chercheur. Il faut regarder le véhicule électrique, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est moins de 5% de notre parc automobile. Ça se démocratise. Quand on parle de pollution atmosphérique automobile, oui, le véhicule électrique peut y répondre. À côté, le véhicule électrique, il faut voir aussi qu'il y a une autre technologie qui est l'hybride, qui est intéressant. L'hybride, il est intéressant parce que quand les vitesses sont réduites, on passe sur l'électrique, donc on émet un peu moins, ce qui permet aussi qu'on fait des plus grandes distances, d'être sur du thermique. Contrebalance de quelques éléments que j'avais pu lire et colloques que j'avais pu suivre, le véhicule électrique est plus lourd, donc quand il marche au carburant, il aura tendance à émettre un petit peu plus. Donc, il n'y a pas un véhicule qui va apporter une solution, des véhicules qui vont apporter une solution. À mon avis, il est plus mitigé, il est moins tranché, en pensant aussi qu'il faut qu'on ait une autre vision de l'utilisation de la voiture. Là, c'est mon côté science humaine qui parle. C'est-à-dire qu'un diesel, il a vocation à être utilisé pour nos camions, pour les poids lourds, pour peut-être ceux qui font des grandes distances. Pas pour la moyenne des Français qui réalisent 3 km par jour avec leur véhicule personnel. C'est plutôt la réponse là. Ce n'est pas une question de parc automobile, c'est peut-être une question d'habitude et d'usage de l'automobile qui est à remettre en cause. Cet usage, cette dépendance qu'on a de l'automobile pour faire quelques kilomètres avec des diesels, qui a été une politique française, aujourd'hui passe à l'essence. C'est une première réponse. L'électricité peut avoir sa réponse dans l'espace urbain, mais peut ne pas avoir sa réponse socialement. Donc il ne faut pas oublier aussi que derrière la cohérence du parc automobile et sa transition, il faut qu'elle réponde à tous les besoins. Aujourd'hui, mon avis sur tous ces véhicules, c'est que il faut que chaque véhicule soit un petit peu mieux utilisé à bon escient. Je ne sais pas, cette phrase veut un peu trop rien dire, mais on utilise à meilleur escient nos véhicules. C'est-à-dire qu'on réalise des déplacements de 3 km par jour en moyenne, c'est ce que fait le Français. Est-ce qu'il y a la nécessité d'utiliser son véhicule? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Et là, les villes proposent d'autres services. la mise en place des tramways dans les villes, la mise en place des bus gratuits à Compiègne, la mise en place d'autres services qui permettent aussi de trouver ces alternances. Et à côté, on voit apparaître une autre forme de mobilité qui sont les VAE, les vélos à assistance électrique, qui peuvent être une solution mixte pour ceux qui ont plus de difficultés à se déplacer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever les voitures des villes. Il faut aussi qu'il y ait des individus qui puissent accéder aux villes. Mais on peut réussir peut-être en ayant un usage plus juste, plus cohérent des véhicules à permettre à tous ces véhicules de cohabiter, à tous les individus, de les utiliser de meilleure escient. Donc mon avis, c'est un avis plutôt de chercheur. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas éliminer un véhicule pour un autre. Si on pense au véhicule électrique, ben on sait très bien la critique qui va être faite sur le véhicule électrique. On consomme d'autres denrées et on va générer d'autres pollutions. Peut-être plus graves, peut-être moins graves. Mais derrière, ce n'est pas une solution viable non plus. On pourrait parler de l'hydrogène, les véhicules à hydrogène. Aujourd'hui, cette technologie n'est pas viable. Elle pourrait apporter une autre réponse. Le bioéthanol, peut-être que celui-ci, il apporte une autre réponse, mais en termes de pollution toxique, il risque d'être un petit peu plus polluant. Donc voilà, il faut trouver un bon mix entre les deux. Et ça, c'est de la politique de la ville et plutôt aussi une habitude qu'on a sur nos véhicules.
Et en somme, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ?
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la simulation de trafic routier, la modélisation du trafic routier, c'est la donnée d'entrée qui permet après, avec des facteurs d'émission, ça s'appelle la méthodologie Köppert, hein, qui est utilisée par les associations de qualité de l'air, d'estimer l'impact théorique de la pollution atmosphérique automobile. Après, il y a des éléments de surveillance pour les valider, mais là, on fait appel au modèle.
Ouais, donc, vous écoutez toujours la radio Graphite au 94.9 FM et vous venez d'entendre du coup le témoignage de M. Justin Emery, géographe et chercheur au sein de l'Université Technologique de Compiègne, qu'on remercie évidemment pour ses réponses claires et précises. Et moi, les filles, j'avais envie de vous demander, par rapport à ce qu'il a dit notamment sur l'utilisation, plutôt que d'utiliser la voiture, d'utiliser les transports en commun, etc., est-ce que ça ne pourrait pas encore être mis plus en avant en France ? Notamment, parce que dans un autre référentiel, peut-être que c'est plus compliqué, mais en France... Enfin, je ne sais pas, en tout cas, vous prenez les transports en commun ou plutôt la voiture ?
Moi, du coup, je n'ai pas ma voiture là où j'habite pour mes études, donc je prends beaucoup les transports en commun, mais surtout le vélo, en fait, comme j'habite à Compiègne, qui est une petite ville. Mais ouais, je prends beaucoup les transports en commun, je pense, par rapport à la voiture.
Moi, je pense que ce qui serait bien, enfin, ce qui serait intéressant de faire, ce serait mettre en place... les transports en commun gratuits, mais dans des régions comme l'Île-de-France, par exemple, où on utilise pas mal les transports et que c'est plus intéressant d'utiliser les transports que la voiture. Je pense que ce serait bien de démocratiser ça là-bas.
Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, le truc, c'est que le seul problème, en fait, à ce raisonnement-là, c'est que quand on habite en campagne et tout ça, en France, au final, on l'a vu avec les gilets jaunes, notamment, il y a eu très peu de gens qui ont un accès à des transports en commun. Parce que si on s'éloigne un petit peu de la région parisienne ou des grandes métropoles, moi personnellement j'ai grandi à Lille et donc j'ai eu accès à tous les transports en commun, tramway, bus, métro, etc. Mais en campagne c'est quand même super compliqué. Donc est-ce que ça, je pense, en tout cas moi je pense qu'on devrait peut-être mettre un peu plus le développement de bus, etc. pour favoriser ça. Parce que c'est vrai qu'en campagne, à part sa voiture,
Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, là d'où je viens aussi, il n'y a vraiment aucun transport en commun pour relier les villages à la ville la plus proche. Enfin, c'est deux bus la journée et c'est vraiment embêtant quand tu as des horaires précis, tu dois attendre là-bas très longtemps. Donc je suis d'accord, il faudrait peut-être accélérer ça là-bas.
Oui, sachant que quand tu rates un bus, tu es bloqué pour toute la journée, quoi.
Ah oui.
Donc, ouais, c'est clair. Non, mais ça, on est bien d'accord. Sur ce, on va enchaîner. Moi, je voulais vous parler un peu du greenwashing avec... Greenwashing, vous voyez un peu l'accent.
Avec l'accent.
Ouais, exactement. Et en fait, je voulais prendre notamment l'exemple de Mercedes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que moi, personnellement, je suis un grand passionné de voitures. Et donc, j'ai suivi un peu ça. Il faut savoir qu'en fait, Mercedes a écopé d'une amende de 1,5 milliard d'euros en 2019, parce qu'en fait, ils avaient dépassé leur quota global de pollution en fait, par véhicule construit. Et en fait, j'étais choqué de voir qu'après ça, pour justement ne plus payer d'amende, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont développé un nouveau véhicule électrique. Et donc, en fait, en se disant, on peut dire, oui, c'est bien, ils ont mis en avant un véhicule électrique, donc c'est pour l'avenir, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que ce véhicule électrique qui est construit, du coup, ils le vendent à perte. Enfin, au final, ils ne font pas de bénéfices dessus parce qu'ils en vendent très peu. Mais ça leur permet d'un autre côté de construire toujours plus de véhicules au diesel. Parce que enfin, vous comprenez bien que du coup, s'ils font des nouveaux véhicules électriques, ça va compenser leur quota global de pollution. Et bah, évidemment, ils n'auront plus d'amende parce qu'ils seront dans, les quotas, tout simplement. Et du coup, bah, ça, pour moi, c'est un peu gênant parce que je trouve que dans les transports, il y a quand même beaucoup de greenwashing. Et bah, on a tendance un peu à laisser passer alors qu'en fait, c'est pas bien, quoi. Au lieu de faire des choses pour faire vraiment bouger les choses, bah, on nous vend un peu du rêve, mais en fait, pas vraiment. Ça reste quand même...
Toujours en termes de profit.
Ouais, exactement, exactement.
Bah après, c'est vraiment pas très honnête, quoi, mais c'est une entreprise qui doit faire du coup du profit. Donc c'est un peu compréhensible, mais c'est pas très, comment dire, pas très correct, quoi.
Pas très
quoi.
Éthique.
Pas très éthique, exactement.
Ouais, bah ouais. Mais du coup, on voit bien quand même que bah, les transports, c'est en grande partie responsable des émissions de CO2. Et donc c'est dû à l'innovation, la technologie, on est bien d'accord. Mais on a pu quand même récolter un autre témoignage, celui de Hipólito Martel Flores, qui est chercheur à l'UTC, et on lui a posé quelques questions. Donc la question, il me semble, il y avait une question là, c'était est-ce qu'on peut se passer de prendre l'avion ? Et on a donc récolté ses propos. Peut-être Manon, tu veux les lire, ses propos ?
Oui, je peux le faire. Bah, il a répondu à cette question, est-ce qu'on peut se passer de prendre l'avion ? Par oui et non. Pour les voyages de courte et moyenne distance, c'est possible à condition d'avoir des moyens terrestres de transport alternatifs et compétitifs au niveau des prix et sans trop augmenter les temps de déplacement. Il a pris l'exemple de l'Europe, où c'est possible car le réseau de trains à haute vitesse est très développé et compétitif en prix avec l'avion. Ou encore, comme autre exemple, il prend les États-Unis ou le Brésil. Mais là, il n'est pas trop possible de se passer de l'avion à cause des grandes distances entre les villes et le manque d'une alternative de transport compétitif avec l'avion en prix et en temps de voyage.
Ah ouais, ouais. C'est vrai que quand on voit ça, il a raison. Moi, pour moi, il a raison parce que bah, je ne vois pas vraiment comment on peut faire. Enfin, personnellement, si j'ai envie d'aller aux États-Unis demain, voilà, je ne peux pas y aller autrement qu'en avion, par exemple.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais t'as des solutions à proposer, toi, pour...
Franchement, c'est... pour des longs courriers, je vois vraiment pas de solution. Je pense que ce qu'il veut dire... Enfin, pour moi, dans sa réponse, c'est notamment, justement, pour les trajets en court distance. Parce qu'on a dit, par exemple, relier Paris et Bruxelles, c'était possible de le faire en 50 minutes en avion. Mais peut-être qu'un Paris-Bruxelles, est-ce que vraiment on a besoin de le faire en avion, tu vois ? Peut-être que
oui,
non,
voilà.
On peut le faire en voiture, on peut le faire en train, donc c'est mieux pour... Pour le bilan carbone, donc ouais, non, t'as raison.
Mais même les vols dans les pays, même, par exemple, un Paris-Nice, je pense qu'on pourrait s'en passer, quoi. En train, c'est totalement faisable. Donc,
et le train, ça pollue beaucoup moins.
Ouais, non, mais c'est clair, non, bah ouais. Mais en tout cas, là, maintenant, tu voulais nous parler d'autres choses, il me semble.
Oui, maintenant, j'aimerais qu'on aborde la question de qu'est-ce qu'apporte la technologie dans les transports. Et comme tu l'as dit précédemment, on a posé quelques questions à Hipólito Martel, qui est ce même chercheur en génie urbain. Et on lui a demandé, d'après vous, quelle est l'innovation la plus importante qui a le plus révolutionné les transports ? Donc ça, on en a déjà parlé un peu avant. Enfin, du coup, je pense que je ne vais pas vous redemander. Mais il a aussi répondu, sans doute la roue. Mais dans les temps modernes, au XXe et XXIe siècle, c'est la machine à vapeur qui a rendu possible le transport ferroviaire et maritime à grande échelle, puis en fait aussi le moteur thermique qui a permis de développer tous les modes de transport pour la marchandise et a aussi permis les déplacements longue distance pour un grand nombre de passagers. Donc en fait ça, je trouve que ça nous amène à nous poser la question d'à partir de quand la recherche en sciences humaines et sociales, elle s'est questionnée sur l'innovation dans l'automobile et les transports terrestres. Bah, en fait, ça a commencé dès le début des années 70 et les deux questions majeures qui en sont ressorties, c'était l'innovation peut-elle résoudre les problèmes des nuisances croissantes de l'automobile, comme le gaspillage énergétique, la pollution, le bruit ou même l'encombrement et l'insécurité aussi. Mais surtout, est-ce que l'innovation dans les transports collectifs, elle peut enrayer la montée en puissance des modes de transport individuels et donc en fait de l'automobile ? Et je peux vous apporter plusieurs réponses, enfin, on va en discuter ensemble sur les différentes innovations qui, à partir de ces années 70, se sont mises en place, comme l'aérotrain de l'ingénieur français Jean Bertin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est et si vous savez quel en était le but.
L'aérotrain, non, bah, j'imagine que c'est un train qui, du coup, doit pas être sur le sol, mais non, franchement, sinon, aucune idée.
La joker sur ce coup-là, par contre.
Bah, c'est un peu, en fait, ce que tu parlais en début d'émission, avec le véhicule se déplaçant sur un coussin d'air. Enfin, toi, c'était le space train. Space, bah, en fait, train. C'est un peu ça. Et c'est guidé par une voie spéciale en forme de T. Enfin, vous voyez pas mes mains, mais le haut du T est en bas sur le sol. Et donc, lui, il y a qu'un pic qui sort du sol. Et bah, y a de l'air à côté de ce pic, donc c'est là qu'en fait il y a comme un coussin d'air, le train est comme en lévitation, du coup on peut dire, et il est propulsé soit par une hélice, une turbine, ou ça peut être un turboréacteur, et même un moteur électrique en fait. Et c'est ce déplacement sur un espèce de coussin d'air qui lui permet d'aller plus vite, puisqu'il est sans contact avec la voie, et donc il n'a pas de frottement, et on peut relier des distances plus facilement et plus rapidement.
Et c'est pas ce qu'ils font au Japon, non?
Je crois que tu confonds avec l'hyperloop. Ah, c'est pas la même chose. Je crois que c'est avec des supraconducteurs. Justement, on va en parler un peu après.
Mais aucune connaissance.
Super. On va essayer.
Mais je pense qu'il y a un truc qui vous marque un peu plus. Bah, c'est le TGV, peut-être, avec la SNCF. Enfin, selon vous, ça a apporté quoi? Par exemple, le TGV, c'est venu aussi dans ces années-là, 70.
Ouais, après bah, ça a apporté quoi? Pour moi, bah, déjà, la réduction du temps de trajet sur des plus longues distances. Parce que, comme j'ai dit, je viens de Lille, et pour faire Lille-Paris, le faire en une heure, c'est plus rapide qu'en voiture. Alors qu'avant le TGV, j'imagine que ça devait être beaucoup plus lent, donc ouais, le temps de trajet pour moi.
Ouais, je suis d'accord, et je trouve que c'est pas mal, ça concurrence pas mal l'avion aussi, à ce niveau-là. Okay.
Oui, et même, on peut trouver des emplois plus loin, en plus bah, le train c'est moins polluant, donc ça a quand même apporté beaucoup de solutions dans les problèmes qu'on commençait à rencontrer à partir de ces années-là. Et justement, je pense que là, je vais venir à ce que François, tu parlais juste avant, les trains à sustentation électromagnétique. Bah, du coup, je vais directement répondre un peu ce que c'est. Bah, là, pareil, ça n'a pas de roue. Et justement, ça fonctionne par sustentation électromagnétique. Il y a, en fait, dans l'air, il y a une série d'aimants qui flottent par supraconducteur. J'avoue que je ne connais pas trop comment ça fonctionne en détail. Mais c'est juste qu'on a une sensation de vitesse extrême, que quand on voit les voitures passer à côté, c'est très impressionnant. Et même quand deux trains de cette sorte se rencontrent, bah, on a l'impression de franchir le mur du son. Et c'est un peu encore en développement aujourd'hui. Et c'est Elon Musk qui essaye de sortir ça. Et il estime que le trajet de San Francisco à Los Angeles, donc 550 km, durera une demi-heure. Donc là encore, on pourrait penser que ça peut remplacer l'avion. Enfin, je ne sais pas vous, mais...
Ah, c'est assez rapide, hein. Vraiment, on pourrait se faire livrer en Uber Eats depuis San Francisco si on habite à Los Angeles. C'est incroyable.
Ton restaurant préféré, il est là-bas.
Exactement. Hein.
Bah, du coup, il y a un peu ces mêmes questions 30 ans plus tard. Enfin, aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits et il y en a d'autres qui vont être faits sur les consommations et... Oui, les consommations et les pollutions automobiles. Mais il y a quand même des problèmes qui demeurent. Les progrès qualitatifs et quantitatifs dans l'offre des transports en commun, comme on a parlé avant, même s'il y a des nouveaux des comportements nouveaux, comme prendre plus souvent les transports collectifs, bah, ça n'a pas permis de modifier notablement leur place dans l'ensemble des modes de transport, comme par la route, par rail ou voie navigable. Donc c'est là qu'on constate que les gens ils commencent à plus croire en la capacité du progrès technologique à tout résoudre. Et vous pensez que c'est quoi les raisons de ça un peu? Enfin, comment vous expliquez que les gens ils sont un peu démotivés face aux nouvelles technologies? Enfin, ils pensent que ça peut plus résoudre les problèmes quoi.
Bah peut-être parce qu'on est arrivé à un niveau tellement théorique de la technologie que on peut se sentir un peu dépassé parce qu'on se dit c'est trop pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont qui comprennent pas du coup forcément le fonctionnement etc. Et du coup on est un peu ouais, puis on a l'impression qu'on est peut-être au summum et qu'on veut toujours dépasser les limites, mais nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Enfin, après...
Ouais, en soi, je suis d'accord. Et je trouve aussi qu'on arrive à un moment où ça progresse pas mal vite. Enfin, toutes les innovations, elles progressent pas mal vite. Et du coup, bah, on peut se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux que ce qu'on a déjà fait, quoi. Donc, du coup, on peut être démotivé face à ça.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Après, j'avais peut-être aussi pensé au solutionnisme technologique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais juste peut-être que les gens, ils ont l'impression que tout le temps, on essaye de résoudre des problèmes. Enfin, par exemple, je prends un exemple hors transport. Si, on sait qu'en ce moment, les coraux, par exemple, ils sont en train de blanchir à cause de l'acidification des océans et du réchauffement climatique. Et pour parler à ça, on trouve des technologies sur lesquelles les coraux peuvent se greffer. Et justement, revivre, se régénérer. Mais c'est vrai qu'on cherche tout le temps à solutionner des problèmes, souvent pour l'environnement du coup, mais en soi on règle pas trop le problème à la source, donc ouais, on a l'impression de plus trop avancer, enfin on pourra pas tout régler avec ça, peut-être aussi, je sais pas.
Ouais, en soi, dans le sens où, je connais ce terme dans le sens où, par exemple, pour les émissions de CO2, enfin la pollution, on va chercher à trouver des solutions pour régler cette pollution plutôt que vouloir l'empêcher, en empêchant par exemple les voitures ou des choses comme ça qui créent en fait la pollution.
Ok. Mais du coup, maintenant, la problématique de l'innovation dans les transports terrestres, elle fait apparaître des questions en suspens, c'est ce qu'on remarque. Par exemple, on peut se demander si on a besoin d'innovation dans les transports terrestres ou aussi dans les modes de déplacement et les conditions de mobilité. Et si oui, de quelles innovations on a besoin dans ces transports terrestres. Et justement, récemment, ce sont surtout les thèmes liés à la sécurité, la circulation, les nuisances, en fait, qui ont déterminé la recherche-développement des principaux acteurs du système automobile d'aujourd'hui. Et les trois domaines qui sont sujets de préoccupation de la part des chercheurs en sciences de l'ingénieur, notamment, ou en sciences sociales, c'est un peu les trois domaines suivants. Enfin, la voiture intelligente, je pense que vous connaissez tous le débat un peu sur la voiture autonome, la voiture électrique ou à hydrogène, et aussi les infrastructures routières. Je commence par la voiture autonome, on peut se demander, est-ce qu'on peut se diriger vers une automatisation complète des transports ou nous ne pouvons pas nous passer en fait, de pilote et de chauffeur? Vous en pensez quoi de ça?
Moi, perso, je pense que ce sera un peu long parce que je pense qu'il faudrait un système avec 100%, soit pour moi 100% de conducteurs réels, soit 100% de robots, parce que sinon, c'est, pour moi, il y a un danger, parce que si on met le robot conducteur et humain, comme l'humain parfois a une conduite instinctive un peu ou des réflexes différents, je pense que le robot peut parfois ne pas l'anticiper et du coup ça peut créer du danger.
Moi je pense que c'est faisable, mais pas pour le moment. Enfin, on n'est pas assez avancé dans cette recherche-là pour pouvoir garantir qu'on soit totalement autonome au niveau des transports. Mais c'est possible pour le futur à mon avis.
Ok. Et du coup, on peut penser un peu la même chose des voitures électriques. Enfin, si cette technologie, elle apportait plus de négatifs ou de positifs.
Personnellement, après, je suis pas très informée sur le sujet, mais je vois pas les aspects négatifs vraiment des voitures électriques.
Il y en a quand même pas mal. Enfin, déjà, ça a un prix d'achat assez élevé, je dirais. Même si on a un bonus environnemental de 7 000 euros en 2021 aujourd'hui. Enfin, comparé à son équivalent thermique, ça reste très cher. Et en plus, je ne sais pas si vous savez, mais la voiture électrique, elle émet quand même des particules fines à cause, à cause du surpoids de la batterie qui fait qu'un... c'est le surpoids de la batterie qui va lancer dans l'atmosphère des particules fines provenant en fait de l'abrasion, ça se dit, oui, des pneus et du revêtement des sols et même des garnitures de freins. Donc ça émet quand même... Et en plus, elles ont un impact non négligeable sur l'environnement, puisque c'est surtout pendant leur phase de production en fait, qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre, oui, qui sont émis. Donc en plus, si on utilise la voiture pendant un certain temps et qu'elle émet des petites particules, au final, ça émet parfois plus même qu'un véhicule à essence, qu'un véhicule thermique.
Donc du coup, c'est pas toujours plus avantageux qu'une voiture normale.
Non, vraiment pas toujours. Donc c'est pas après, ça a des aspects positifs aussi. Hein, faut pas, la voiture électrique, elle a fait plein de choses. Déjà, elle est économique en plus. C'est moins cher au final qu'un véhicule thermique, puisque au 100 km, ça coûte 2 euros en électricité, alors qu'avec un équivalent diesel, c'est 11,50 euros. Je trouve que c'est quand même moins cher, beaucoup moins cher.
Après, il y a le temps de recharge quand même.
Oui, ouais, aussi.
Du coup, s'arrêter tous les... Je sais pas quelle est l'autonomie d'une voiture électrique, mais elle doit pas être énorme. 300 km max, je dirais. Du coup, s'arrêter tout le temps sur l'autoroute quand on fait 1000 km, bof, quoi. Enfin, après, chacun son avis là-dessus, mais...
Oui, oui. Et je peux vous poser encore une petite question. J'aimerais juste savoir si vous êtes pour la globalisation totale des transports autonomes. Je m'explique, c'est comme si une application pouvait gérer toutes les demandes, nos demandes, en fait, individuelles de... on pourrait en fait choisir quand est-ce qu'on a besoin de voitures autonomes et il y aurait un système via une application qui permettrait d'organiser par exemple notre semaine. On sait qu'on va à telle heure au travail, qu'on va déposer nos enfants à telle heure à l'école et si on pourrait pas imaginer un monde où on a un système de voitures qui nous permet de de nous conduire où on veut selon notre planning, on va dire, ou un système même d'urgence quand on a un imprévu où les voitures se prêteraient et qu'on n'aurait pas du coup une voiture individuelle et que ça serait du coup plus écologique, ou vous trouvez ça impossible ?
Moi, je suis un peu contre parce que j'aime bien le fait tu vois, d'avoir une voiture. C'est pas très écologique, mais une belle voiture, tu vois, pour toi, je sais pas, ça me fait kiffer.
Ok.
Ouais, moi, je pense que encore une fois, c'est possible, mais pour le moment, pas trop possible. Et en plus, il y aura pas forcément beaucoup de personnes qui vont accepter parce qu'il y en a qui aiment bien conduire aussi. Donc voilà quoi.
Au pire, on fait juste les transports en commun, des métros, des tramways autonomes.
Ouais, et on garde. Ça pourrait être pas mal.
Je sais pas trop, mais voilà. Et juste aussi, la voiture à hydrogène, vous savez comment ça marche ou ce que c'est, ou vous en avez jamais entendu parler? Parce que moi, je savais pas trop avant.
Non, jamais.
Moi non plus.
En fait, c'est comme une voiture électrique. Et c'est juste qu'en fait, la batterie, elle est remplacée par une pile à combustible qui est alimentée en hydrogène, justement. Mais au final, on ne sait pas trop si ça va aboutir parce que ça coûte cher déjà de prendre autant d'hydrogène. Et surtout, c'est un peu dangereux parce qu'il y a des risques d'explosion. Et c'est pour ça que c'est interdit en France. Et le résultat, c'est que ça va produire de l'hydrogène et rejeter du CO2. Donc moi, personnellement, je ne pense pas que ça va aboutir.
On verra bien, de toute façon. On verra bien, on ne peut pas vraiment le savoir. Hein. On verra bien.
Le futur nous le dira.
Exactement.
Exactement. on peut peut-être juste dire, pour conclure un peu cette partie, que la technologie, elle a apporté de la fiabilité dans les services de transport. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a toujours cherché à améliorer la sécurité. Et ça nous a quand même apporté beaucoup, la technologie. Et même l'écologie, avec les moteurs hybrides, la voiture électrique, c'est quand même un effort. Donc, il n'y a pas eu que du négatif dans la technologie, même beaucoup de positifs, c'est sûr. Même pour l'accessibilité dans les transports en commun des personnes en situation de handicap. Enfin, il y a plusieurs exemples. Je peux citer Amtrak, une entreprise américaine, qui a conçu en fait des espaces intérieurs justement complètement accessibles pour une meilleure signalisation et un meilleur accès des quais pour les personnes en difficulté de mobilité.
Mobilité réduite,
mobilité réduite, pardon. Mais ça me fait aussi penser qu'il y a quelques dangers quand même à toutes ces technologies. Enfin, c'est pas...
Exactement, et tu fais bien de le dire, parce qu'en effet, toutes ces innovations dans les transports, ça crée des dangers, forcément. Là où il y a des innovations, il y a du danger, c'est une règle générale. Et donc du coup, je voulais vous parler de certains de ces dangers-là qui, notamment, concernent la sécurité et la vie privée. Donc je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous êtes au courant, si vous prenez l'avion souvent, mais il y a eu une mise en place de la reconnaissance faciale dans les aéroports, en fait, pour remplacer les contrôles de passeport. Donc est-ce que vous en avez déjà entendu parler ?
Alors moi, non. Enfin, peut-être, mais je ne m'en souvenais plus en tout cas. Enfin...
J'en ai pas entendu parler en détail, mais la reconnaissance faciale, ça me dit un peu quelque chose quand même. Enfin, je sais que c'est un peu en cours de développement en ce moment.
Je savais pas que c'était en place, moi, perso.
Ah, c'est en place déjà ?
Ouais, Orly. Oui, okay. À Orly, ils ont mis ça en place, et aux États-Unis, il y a déjà pas mal d'aéroports qui sont concernés par ça. Et donc, du coup, en fait, ça permet de s'enregistrer, mais sans montrer son passeport ou passer par quelqu'un, en fait. Il y a juste une caméra qui analyse notre visage et qui nous laisse passer. Donc, du coup, vous en pensez quoi de ça ?
Oula, c'est vrai qu'à première vue, ça paraît confortable de ne pas avoir de papier, comme tu dis. Mais du coup, ils connaissent vraiment mon visage. Enfin, il ne peut pas y avoir des erreurs possibles parce que...
Déjà, je vais demander à François ce qu'il en pense avant et je vais passer aux erreurs parce que tu as raison d'en parler.
Moi, personnellement, je ne suis pas contre, mais je me dis quand même que c'est toujours bien. Je trouve quand on est à l'aéroport, c'est un peu des situations stressantes. Et du coup, avoir quelqu'un peut-être qui nous contrôle, je sais pas si c'est plus stressant ou moins stressant, tu vois. Je sais pas si...
Je vois. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a des points positifs, donc c'est plus confortable, c'est plus rapide, on n'a pas besoin de présenter des papiers. Mais il y a aussi certains aspects négatifs, comme le fait qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc comme tu l'as dit, Manon, on ne sait pas si le système, en fait, il est réellement assez performant pour éviter, par exemple, les usurpations d'identité. Et bien identifier les personnes, sachant qu'il y a certaines études qui sont menées par le MIT qui montrent que les reconnaissances faciales, elles sont souvent sujettes aux erreurs, notamment pour l'identification du sexe des personnes noires. Donc du coup, on a tendance à considérer des hommes comme des femmes ou des femmes comme des hommes. Donc, du coup, ça pourrait possiblement créer de la discrimination, en fait. Et donc, du coup, le taux d'erreur, il est assez élevé. Et on peut aussi parler du fait que ça peut faire perdre l'emploi des personnes qui sont responsables, en fait, de l'embarquement, mais également un problème de liberté par rapport au fait que nos visages seront, en fait, enregistrés dans des bases de données. Et donc, du coup, on pourrait, ces informations, elles pourraient potentiellement être partagées, notamment avec les forces de l'ordre, ce qui est déjà fait aux États-Unis. Donc, est-ce que vous avez confiance en cette innovation maintenant que j'ai énoncé ces points-là ?
Bah, moi, plus trop, non. Enfin, j'ai déjà assez du mal avec ça de base. Donc, enfin, je suis un peu réticente. Et moi, au contraire, j'aime bien avoir des personnes en face de moi. Genre, toi, t'as parlé de situations stressantes dans les aéroports, François. Et moi, justement, ça me rassure d'avoir quelqu'un avec un peu le même... Enfin, pas le même esprit que moi, mais qui peut m'aider, ou genre un être humain, je sais pas, ça me rassure.
Ouais, ouais. C'est... Non, mais il y a des côtés... C'est pour ça que je disais que je sais pas si c'est positif ou négatif, le fait qu'il y ait quelqu'un. Moi, personnellement, ça a tendance à un peu me stresser, parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors que pas forcément, même jamais. Mais ça me... Voilà, alors peut-être que s'il y a personne, bah, je serais plus détendu. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des erreurs et tout ça, puis si ça crée de la discrimination... Moi, je pense que quand quelque chose comme ça, une technologie dont on peut se passer, parce que pour moi, c'est pas... Enfin, on peut s'en passer techniquement de ça. Et je pense que du coup, si ça crée des problèmes, autant s'en passer plutôt que payer des fortunes, parce que j'imagine que ça doit être un système qui est assez onéreux. Et donc voilà, si on peut éviter de payer des fortunes pour quelque chose qui n'est pas efficient, c'est tant mieux.
Hein. Oui, ouais, je suis d'accord. Autant s'en passer ou au moins faire avancer le projet avant de le mettre en place. Du coup, j'avais un deuxième exemple des dangers possibles par rapport à ces innovations dans les transports, notamment avec la livraison par drone. Donc, en fait, il y a un projet qui est de remplacer les camions de livraison par des drones. Donc, ça a été fait pour la première fois en 2016 par Amazon, qui a livré dans le jardin d'un client. Mais depuis, ils n'ont pas mis ça en place à grande échelle. Donc, ce n'est pas utilisé aujourd'hui. Mais il y a plusieurs entreprises qui... travaille en fait sur la mise en place de ce concept, notamment La Poste. Donc du coup, est-ce que vous aimeriez, par exemple, vous faire livrer... Enfin, je ne sais pas si vous avez Amazon Prime, mais est-ce que vous aimeriez bien vous faire livrer, au lieu de, en 24 heures, encore plus rapidement, vos colis par drone ?
Ça a l'air très efficace. Et en plus, je suis en train de me demander si ce n'est pas mieux pour l'environnement qu'un camion. Mais ça a l'air pas trop mal. Mais je suis sûre que tu vas me trouver des soucis à énoncer. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire qu'il va vraiment savoir où j'habite. En fait, quand on donne notre adresse de livraison, on sait aussi où on habite. Mais là, il a une caméra, je suppose. Enfin, un drone, c'est possible de prendre...
Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, personnellement, si ça arrive plus vite... parce que parfois, le livreur, il va arriver à ma porte, il ne va pas m'appeler. Et après, il va dire qu'il a essayé de m'appeler. Enfin, notamment avec La Poste. J'ai déjà eu plusieurs soucis avec La Poste.
Ouais.
Mais du coup, voilà. Bon, je pense que La Poste n'est pas prêt d'avoir des drones, hein, même si c'est gentil de les notifier. Mais pour Amazon, ouais, non, moi, je suis plutôt pour. Enfin, après, ouais, bien sûr. Je vais attendre de voir, en fait, les dangers que tu vas m'évoquer pour...
à première vue, je suis plutôt pour aussi. Enfin, ça n'a pas l'air...
Ouais, en vrai, moi aussi, je serais plutôt pour, parce que c'est... quand même pas mal de confort, mais il y a quand même des dangers, comme le fait que le drone, c'est un ordinateur. Donc, il va être exposé potentiellement à des logiciels malveillants et il va être encore moins sécurisé qu'un ordinateur, donc encore plus sujet à se faire pirater, en gros. Et donc, du coup, nos informations, elles seraient pas forcément en sécurité. Il y aurait une possibilité de dévier nos colis, une possibilité d'espionner nos maisons, donc ça rendrait les cambriolages d'autant plus faciles. Et aussi, il y a le problème de la collision entre plusieurs drones. Donc, si on démocratise ça, il y aura plusieurs drones dans le ciel. Et donc, du coup, on devra s'organiser pour qu'ils ne passent pas aux mêmes endroits au même moment. Donc, du coup, il y a un danger pour les infrastructures et les citoyens, parce que j'imagine que vous n'aimeriez pas qu'un drone vous tombe sur la tête pendant que vous êtes dans la rue. Donc, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez des craintes particulières par rapport au fait, par exemple, de se faire espionner ou de se faire voler ses coordonnées bancaires ?
C'est vrai que si on détourne des drones ou qu'on arrive à les pirater, ça veut dire que la personne qui la pirate, elle aura tout le contrôle sur le drone et déjà, elle pourra me prendre mon colis. Et en plus, si elle a... Enfin, je sais pas si le drone va rester pour m'espionner dans mon jardin, mais elle a quand même des données... Enfin, en soi, elle a quoi comme données à part le visuel de ma maison ou mon adresse ? Enfin, elle n'a pas des données très... Ah, mes coordonnées bancaires, bah si, t'as raison.
Ouais. Puis après, c'est un peu anxiogène quand même, non? Enfin, je sais pas, genre, ouais. Entendre un drone qui vole ouais. dans son jardin, c'est un petit côté
ouais, film, ça fait du bruit peu, en plus, ces choses, ouais.
Ouais, c'est film vrai. De science-fiction un peu qui fait peur dans une dystopie. Enfin, moi, c'est, ouais, c'est
ouais,
un peu
le truc... Le projet était pas mal, hein.
Non, mais, non, mais l'idée est bonne, l'idée est bonne, c'est sûr. Après, ouais, c'est vrai que s'il se fait pirater, le drone, tout ça, enfin, ouais, ça fait peur un peu. Hein. Mais, franchement, ouais, non, moi, j'aurais peur.
Ouais, en fait, ça crée plus de danger qu'autre chose, quoi. Encore une fois,
et puis faudrait... en plus, ça enlève des métiers, du coup. Ah bah non, il y a quelqu'un qui pilote le drone ou pas?
Il me semble qu'il y a... Bah du coup, on peut avoir des drones automatisés, mais je pense pas que ce soit la majorité des cas. Enfin, je sais pas okay, si ça ouais. s'est démocratisé, ça, ou pas du tout.
Ouais. Et du coup, sachant aussi, parce que le drone, bah, il en faudrait beaucoup, parce qu'un drone, ça peut pas transporter autant qu'un camion.
Et je me vois mal me faire livrer un frigo par drone.
C'est ça, oui, c'est un sacré drone qui fait de la muscu, hein, vraiment. Ouais, non, t'as raison.
Mais voilà, voilà. Et donc, du coup, avec ces dangers-là que j'ai exposés, on se rend compte qu'en fait, on tend à automatiser les transports et à vouloir les rendre autonomes, mais surtout à les lier à l'informatique. Donc, il y a une possible récolte de données et une possible mise en danger de notre vie privée et une récolte de nos informations, quoi. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que toutes ces innovations sont réellement nécessaires ou est-ce qu'elles sont là juste pour créer du confort et on n'en a pas vraiment besoin en vrai?
Bon, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on a citées dont on a besoin, mais dans la majorité des cas, c'est vrai qu'on se rend compte que, bah, on dirait qu'on est un peu arrivé au summum de la nécessité et qu'on est en train d'être un peu dans un confort, en faire le moins possible, le plus rapidement possible et tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, à part des gains économiques, et bon, pour le drone, peut-être un petit peu écologique, sinon, je n'y vois pas forcément de grand intérêt, même pour les caméras dans les aéroports, tout ça. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas un intérêt clair, il n'y a pas un intérêt net. Mais c'est un peu des technologies, pour moi, qui révolutionnent pas vraiment le genre, parce que c'est pas quelque chose qui change le monde. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais...
Non, moi, je suis assez d'accord avec toi.
Moi aussi, je suis d'accord, mais je pense qu'on ne devrait pas... Fin... C'est une bonne manière de penser dans le sens où on n'a pas vraiment besoin de tout ça parce que c'est juste pour notre confort. Mais pourquoi on devrait forcément se priver de notre confort du coup?
Ouais, c'est vrai. Bah, ça dépend pour moi si c'est un... Parce que le problème, comme tu as évoqué, c'est qu'il y a quand même pas mal de dangers. Ouais. Du coup, pour moi, c'est un peu le côté de. On se fait déjà livrer par Amazon en 24 heures, est-ce que vraiment se faire livrer en 12 heures, ça va changer notre vie et c'est vraiment du confort en plus? Voilà, bon, je sais que quand on commande, moi par exemple, quand je commande des super chausse-pieds, j'ai envie qu'ils arrivent tout de suite, mais en vrai de vrai, ça me change rien qu'ils mettent 12 heures de plus à arriver.
Ouais, et après, l'exigence, elle s'arrête où? Enfin, après, on le voudra instantanément par téléportation. Enfin, c'est bien, ça met un peu des limites. On va pas se conforter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confortable. Enfin, je sais pas comment dire, mais on
en veut toujours plus.
Ouais, c'était vraiment pas mal celle-ci.
Très philosophique.
On en veut toujours plus.
Ouais, c'est sûr.
Bah, du coup, ça conclut ma partie sur les dangers qui étaient...
Ah, c'est vrai qu'on se rapproche de la fin. Donc, je crois que Manon, toi, tu avais un dernier truc dont tu voulais parler, non? Un peu comme ça.
Un dernier truc dont je voulais parler pas spécialement, mais on peut conclure si vous voulez. Ou alors on peut revenir très vite fait, puisqu'il nous reste quand même un petit peu de temps pour qu'on discute encore tous ensemble. Mais j'avais la réponse, en fait, de... Si vous voulez qu'on reparle un peu de la globalisation des transports, parce qu'on n'en a pas parlé très longtemps. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
De Hippolyto
Oui, okay. Exactement.
Vas-y.
Je lui avais demandé si lui, ce qu'il en pensait d'une automatisation complète des transports. Et je vais quand même vous lire un peu sa réponse. Lui, il pense que dans le futur ou à moyen terme, c'est peut-être possible, mais que justement dans l'immédiat, c'est pas trop possible car les technologies d'autoguidage ne sont pas au point. Pour l'instant, les véhicules autonomes, ils sont sans chauffeur. Et les plus avancés, c'est que ceux de Tesla. Et même eux, ils ont provoqué déjà de nombreux accidents. Et de plus, si on prend hors les États-Unis, nous nous trouvons aussi avec énormément de problèmes techniques ou au moins avec des imprécisions de GPS, chez nous en particulier, puisqu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes par ces services. Donc, ils pensent plutôt que c'est dans le cas des véhicules autonomes avec une infrastructure de guidage qu'il est plus certain qu'on aura du progrès sur le court terme, comme avec les navettes, les métros, les tramways. Et donc, c'était un peu pour répondre un peu à tout ça, puisqu'on a beaucoup parlé de véhicules individuels, mais lui, il est vraiment axé sur... il pense qu'on doit automatiser que les structures de transport en commun. Mais c'est là que moi, je me pose un peu la question. Enfin, je ne comprends pas trop ce que ça va changer, parce que si on a tous une voiture individuelle et qu'au final, on automatise que les transports en commun, enfin, je ne vois pas trop ce que ça apporte.
Ouais. Ouais, puis aussi, là, il va falloir songer à conclure, mais vraiment pour parler justement de l'automatisation, le problème, c'est que par exemple, dans la sécurité, dans les transports en commun, moi, je trouve que le fait qu'il y ait un chauffeur, enfin un conducteur ou quelqu'un qui va s'occuper de la sécurité, c'est toujours un peu plus rassurant qu'un truc totalement automatique. Par exemple, rien qu'à Lille, il y a plus de problèmes dans les transports en commun à Lille qu'à Paris, tout simplement parce que notamment le métro est automatisé. Mais on se rend compte que c'est pas vraiment normal parce que, notamment, je sais pas, en tout cas, vous, peut-être, si vous avez déjà pris les transports en commun, si vous étiez une femme seule, je trouve qu'il y a quand même, on peut se sentir en danger. Moi, je trouve parfois qu'il y a un peu de danger, en tout cas.
En effet, c'est vrai qu'on peut être plus rassuré si on sait qu'il y a un chauffeur auquel on peut possiblement...
Ouais, on peut appeler, en fait, ouais. Si on a un problème.
Ouais, mais on peut pas automatiser ça aussi, mais justement, il existe une application, je sais pas si vous connaissez Josu, qui permet de remédier un peu à ce problème, puisqu'il suggère en fait des itinéraires un peu plus, sécurisés sur les différents moyens de transport, les différents itinéraires, et ça pourrait être une réponse aussi à ce problème si on enlève un peu le côté rassurant humain. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, ça viendra conclure notre émission, donc si vous vous sentez en danger dans le métro, téléchargez Josu, et vous serez bien. Donc,
Juste avant de conclure, on peut peut-être juste remercier quand même les personnes qu'on a interviewées, dont Emery Justin, pardon, qui nous a parlé beaucoup d'environnement, et Hippolyto Martel, qui nous a parlé plus des transports, lui, et bien sûr nos professeurs qui nous ont permis de réaliser l'émission, Clément Mabie et Edouard Boutet, et surtout aussi les gérants de Graphite qui nous donnent ce studio actuellement. C'est Léo et Brian, donc on les remercie.
On les remercie, en effet.
C'est notre dernière émission, donc on vous dit un peu adieu. Enfin, vous ne nous entendrez plus.
C'est triste.
Vraiment, ouais. Mais en tout cas, c'était super. C'était une super expérience pour nous, parce que dans le cadre des études, on n'a pas forcément l'opportunité de faire ça. Et donc, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai adoré, en tout cas. Et donc, vraiment, merci aux professeurs de l'UVSI1. À Léo et Brian, notamment, parce que Léo nous a bien aidés en termes logistiques, sinon on aurait été un petit peu en difficulté.
Oui, exactement.
Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission, Les Échos de l'Innovation, sur Radio Graphite au 94.9 FM. Donc on vous dit à bientôt, et continuez de regarder cette radio, c'est la meilleure.
D'écouter.